Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. Pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous nous écoutez en podcast, je vous emmène aux rencontres de la vidéo mobile et de l'innovation éditoriale organisée le 6 février à Paris. Vous entendrez tout à l'heure Charles-Henri Groux, il est chef du service vidéo au journal Le Monde, où une des dernières innovations est la production d'enquêtes en vidéo. Un journaliste nous expliquera pourquoi les newsletters ou infolettres reviennent à la mode. Mais tout de suite, une universitaire va nous expliquer l'impact du smartphone sur le journalisme.
Atelier@rfi.fr.
Bonjour Nathalie Pinard-Chenel.
Bonjour.
Vous êtes professeure de journalisme numérique à l'université de Neuchâtel, en Suisse, et vous avez co-signé avec Laura Van Die Voet, chercheuse à l'université catholique de Louvain, en Belgique, un livre sobrement intitulé « Journalisme mobile » qui revient sur 10 ans de production et de consommation de l'information sur smartphone. Pourquoi 10 ans déjà, alors que le journalisme mobile existe depuis un petit peu plus longtemps quand même ?
Oui, 10 ans, c'est un peu, en fait, on s'est pas arrêté sur les 10 ans, mais on peut se considérer que un peu plus de 10 ans, 2007, c'est l'iPhone qui est sorti, et puis ça marque un peu dans l'histoire des smartphones, c'est une date importante. Mais nous, ce qui nous a surtout intéressé, c'était de montrer quelles sont un peu les tendances de fond qui se dégagent depuis un certain nombre d'années. Mais effectivement, on est plutôt sur des périodes qui sont un petit peu plus récentes.
Et vous avez listé justement 4 enjeux. Quels sont-ils ?
Alors, le premier enjeu, en fait, celui qui nous semble assez central, c'est le fait que la consommation d'informations a changé. Et ça nous semble assez central parce que pour nous, c'est un peu le point de départ qu'il devrait y avoir dans toutes les rédactions et pour les journalistes de se dire finalement aujourd'hui, les personnes auxquelles je m'adresse, elles s'informent plus de la même manière et ça doit sans doute amener à penser ma manière de travailler et de produire des contenus. Donc ça, c'était le premier axe. Le deuxième, c'est que justement, on va produire des contenus de manière différente. On va aussi produire parfois des contenus qui sont pensés uniquement pour le mobile ou pour les réseaux sociaux, parce qu'en fait, les réseaux sociaux, finalement, sont en très, très grande partie liés à une pratique mobile. Et le troisième aspect, c'est que tout cela amène à des changements dans les rédactions, des changements d'organisation, des changements dans les stratégies éditoriales, l'apparition aussi de nouvelles fonctions. Et puis enfin, le dernier axe qui est très discuté, notamment dans la journée vidéo mobile, c'est la manière dont le smartphone est utilisé par les journalistes comme un outil de production d'information. Alors que les 3 premiers axes, c'est plutôt comment on va produire pour le smartphone plutôt qu'avec.
Ici, votre intervention au cours des rencontres de la vidéo mobile et de l'innovation éditoriale était intitulée « Qu'est-ce que le smartphone a changé au journalisme ?» Est-ce que fondamentalement, le smartphone a beaucoup changé le journalisme ?
Alors, le smartphone, en tout cas, moi, je pense qu'on peut le voir un peu comme un révélateur de nombreux changements en cours. Parce que, effectivement, avec le smartphone, on est amené, avec ces nouveaux modes de consommation, on est amené à se poser beaucoup de questions sur les formats, sur les narrations, sur les modes de production d'information, sur des nouvelles collaborations aussi au sein des rédactions. Donc, c'est pas le smartphone purement en tant qu'outil qui a changé, même si ça a changé en partie, mais c'est le smartphone en tant qu'usage, en tant que support de nouvelles manières de diffuser l'info, en tant que support aussi de nouvelles manières de monétiser, etc. Donc c'est plus ça que vraiment l'outil pur en lui-même.
Il y avait une petite question un petit peu provocatrice, qui était « Comment faisait-on avant ?»
Et bien avant, déjà on faisait du journalisme, on fait toujours aujourd'hui du journalisme, donc ça reste quand même la base. Donc nous on n'est pas dans une perspective du déterminisme technologique, l'outil va tout changer, pas du tout, hein. Encore une fois, la base c'est quand même de raconter des histoires, de s'adresser à un public, de faire du journalisme. Mais malgré tout, ça amène aujourd'hui peut-être à se poser de nouvelles questions. Et c'est ça qu'on a voulu un peu mettre en lumière.
Alors pour votre livre « Journalisme mobile », vous avez mené beaucoup d'entretiens. Vous êtes allé dans des rédactions en France, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg également. Dans quel état d'esprit avez-vous trouvé les journalistes et les gens de médias que vous avez rencontrés ?
Alors nous, on a pris notre parti pris, c'était d'aller dans des rédactions qui se posaient déjà la question de ces nouvelles pratiques ou ces nouvelles manières de faire avec le smartphone. Après, il y a beaucoup de rédactions qui sont dans des logiques déjà de se dépêtrer par exemple avec le web first, qui est déjà quelque chose d'assez compliqué, avec une production pour un site web. Donc là, nous, c'était vraiment aller voir déjà ceux qui sont un peu acteurs de ces changements-là. Et en fait, on a trouvé des choses extrêmement différentes parce qu'on est allé aussi dans des médias très différents. Luxembourg Vert, c'est un média local luxembourgeois, donc ça va être très différent de BFM TV Paris, par exemple, qui est une rédaction 100% mobile, en plus pour la télévision. Donc on a vu des choses assez différentes, mais à chaque fois, vraiment, à nouveau, cette question qui se pose de comment on va produire avec ou pour son smartphone, est-ce que ça nous amène à travailler différemment, comment, etc. Donc les questionnements sont un peu les mêmes, mais en fait, les médias qu'on est allé investir sont assez différents.
Est-ce que le journalisme mobile, là aussi je vais poser un petit peu une question provocatrice, permet ou pousse les journalistes et les médias à descendre de leur tour d'ivoire d'une certaine façon et à se rendre plus accessibles? Parce que le grand public a souvent tendance à parler de ces journalistes, même d'utiliser le terme « les médias » pour en parler comme une unité en fait. Est-ce que justement le journalisme mobile, le fait d'utiliser un smartphone, d'être beaucoup plus mobile justement, permet d'être plus accessible et peut-être plus proche des gens?
Oui, bien sûr. Dans la pratique du journalisme mobile, on voit des pratiques beaucoup plus immersives. On va effectivement beaucoup plus au contact des gens. On est également mieux accepté dans certains endroits. Clairement, on nous l'a beaucoup dit, ça favorise cette proximité. Mais au-delà de ça, si j'en reviens au journalisme mobile de manière plus générale, se poser la question de où est mon public ? Comment ils consomment l'information, dans quelle communauté sont-ils, le fait d'avoir aussi des retours, des interactions, des conversations sur les réseaux sociaux. Nous, ça, on en tient compte aussi. Pour nous, c'est aussi une des mutations de ce journalisme mobile. Ça fait qu'effectivement, on est de plus en plus, les médias globalement sont de plus en plus dans cette recherche d'une interaction, d'un dialogue, d'un retour. Voilà, ça ne va pas tout changer, encore une fois, très clairement. Mais il ne faut pas juste voir, là encore, le journalisme mobile comme faire du journalisme avec un smartphone, mais aussi à destination de nouvelles manières de consommer l'information sur des plateformes, sur des réseaux sociaux qui sont très majoritairement mobiles.
Je le disais en introduction, vous êtes professeur de journalisme numérique. Les jeunes étudiants en journalisme que vous avez chaque jour en cours, ont-ils tous envie de faire du journalisme mobile et de sortir leur smartphone au quotidien pour filmer? Parce qu'ils en ont tous un dans leur poche. Souvent, ils font des stories sur leur compte Instagram. Mais ont-ils envie de s'en servir professionnellement?
C'est une excellente question. Parce que c'est là où parfois on a une difficulté. Effectivement, on a des jeunes qui utilisent tous les jours leur smartphone, qui sont sur des tas de plateformes. Mais quand on leur demande de mettre cette pratique au service du journalisme, ça leur paraît beaucoup plus compliqué parce que parfois ça leur paraît assez contradictoire. Donc on travaille beaucoup là-dessus, de leur montrer qu'utiliser leur smartphone, c'est pas faire du moins bon journalisme, c'est pas faire du journalisme low cost. Au contraire, ça permet justement peut-être de renouveler les formats, d'avoir un rapport différent avec son audience, avec ses publics. Et on pourrait croire que ces jeunes-là, ça va être très naturel pour eux. Et en fait, il y a un certain nombre de barrières à faire tomber. Mais dès lors que ces barrières sont tombées, qu'ils acceptent cette idée, ils mettent à profit leur créativité, et leur connaissance aussi de ces codes-là. Et ça peut vraiment donner de très jolies choses.
Donc il y a des raisons d'espérer quand même.
Ah bien sûr, toujours il y a des raisons d'espérer.
Merci beaucoup Nathalie Pinière-Chenel.
Merci beaucoup.
L'atelier des médias.
Bonjour Jean Béatessi.
Bonjour.
Vous êtes journaliste couteau suisse, en tout cas c'est comme ça que vous vous définissez, est-ce qu'on peut trouver sur votre biographie Twitter. Vous avez été rédacteur en chef adjoint de ID News, un site d'information suisse qui s'est lancé il y a un peu plus d'un an, un an et demi maintenant. Auparavant vous étiez rédacteur en chef au Temps en Suisse, là aussi. Et au cours de ces deux grosses expériences passées, vous avez notamment beaucoup travaillé sur les newsletters. Les newsletters au final c'est quelque chose de très ancien mais qui revient à la mode. Pourquoi ?
Alors, en 2019, il y avait un article très connu qui avait écrit « L'email est mort ». Et là, on est en 2020 et on voit que l'email n'est pas mort. Donc voilà, c'est un format qui est un format natif quasiment d'Internet et qui aujourd'hui retrouve un usage simple pour les journalistes. C'est un moyen simple d'informer les lecteurs sans interactivité, sans multimédia, mais de manière tout à fait simple. Souvent on dit que la newsletter redevient un peu la nouvelle page d'accueil des sites. Donc voilà, moi je trouvais ça intéressant de me plonger dans ce format hyper simple, hyper limité, et essayer de trouver des moyens d'innover avec.
Alors c'est un contact qui est direct, puisque c'est un message qui arrive dans la boîte mail des utilisateurs et qui aussi ne passe pas par des algorithmes. Et c'est ça qui est aussi intéressant peut-être ?
Alors c'est intéressant dans un monde où l'information circule beaucoup par Facebook, Twitter, d'avoir pour un éditeur de presse ou un éditeur de médias la maîtrise de son canal, ça c'est un bon point. Et l'autre intérêt c'est qu'on crée une relation personnelle, c'est-à-dire que le lecteur concède le droit de nous envoyer une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois un contenu, à nous de le respecter et de lui envoyer une information de qualité. Sinon, la sanction immédiate, c'est le désabonnement. Et c'est un outil à double tranchant, c'est un outil qui permet de fidéliser un lecteur, mais c'est un outil qu'il faut manier avec prudence et il faut être respectueux du lecteur.
Alors, la newsletter a ses règles, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Commençons peut-être par ce qu'il ne faut pas faire dans une newsletter.
La première règle, c'est une règle plus générale du mail, c'est d'éviter de spammer les gens avec 50 alertes, 60 messages par jour, si on a une promesse de régularité, s'y tenir. Et puis après, c'est la qualité, c'est-à-dire qu'il faut apporter un contenu qui rende un service au lecteur. Ce service, ça peut être un gain de temps. Si je reçois une newsletter qui me dit, par exemple, les 3 bons articles à lire, ça rend un service. Si une newsletter me rend l'information digeste et me dit ce que j'ai raté, dans l'actualité de la veille, il me rend un service. Donc il faut vraiment penser en termes de service rendu. Et ça, c'est la clé, il me semble.
Et ce qu'on remarque également dans les choses à faire et dans les choses qui se font de plus en plus, c'est le fait d'avoir du ton et d'incarner la newsletter, de la présenter, qu'une personne peut-être nous parle à la première personne. Je m'appelle Machin Chouette, je vous parle de là et aujourd'hui je vais vous raconter telle histoire.
Alors ce qui importe effectivement, c'est de ne pas considérer le canal comme un canal... Faut pas écrire une newsletter comme un article. L'important, moi je dis toujours, c'est 2 éléments. Une newsletter, c'est une bonne newsletter, c'est d'abord de l'info et ensuite de l'esprit. De l'info d'abord parce que le lecteur vient chercher une information, c'est notre métier. Et de l'esprit parce que si l'information peut être amenée de manière amusante, fine, intelligente, avec un ton, avec une voix, et je pense que beaucoup de lecteurs viennent chercher une voix différente de ce qu'ils peuvent trouver sur un site, et ben tant mieux, c'est plus simple, plus agréable d'avoir quelqu'un qui nous parle plutôt qu'un article un peu docte qui nous raconte de manière un peu froide l'actualité.
À votre avis, à combien de newsletters un internaute lambda peut-il, doit-il s'abonner ?
Rien d'obligatoire. Non, c'est difficile. Après, il y a beaucoup de newsletters d'actu. Souvent, l'une remplace l'autre. C'est-à-dire que si moi, je suis abonné à une newsletter d'actu sur Le Monde, je ne vais pas être abonné à celle de Libération. Donc, non, il n'y a pas de règle. Je peux pas vous dire.
Y a-t-il des bons exemples de newsletters que vous pourriez citer pour nos auditeurs ?
Alors, ce que fait, par exemple, Libération avec des newsletters qui sont très thématiques, une sur le genre et sur le féminisme, l'autre sur la politique, les coulisses de la politique, une troisième sur la nourriture, je crois, qui sont payantes pour le lecteur, c'est une bonne idée, par exemple. Moi, j'aime beaucoup celle d'une newsletter américaine qui s'appelle Quartz Obsession, qui est un petit zoom sur un objet ou une chose du quotidien et on raconte l'histoire. Je ne sais pas moi, de ce que c'est qu'une palette, un conteneur, voilà, et on j'aime beaucoup ce format-là.
Et Quartz également qui fait des newsletters dans lesquelles il n'y a pas que des liens vers son propre média, que vers Quartz, mais également vers d'autres sources. C'est aussi ça l'important, je veux dire, pour le journaliste, pour l'auteur d'une newsletter, d'un média, de montrer qu'il y a des choses peut-être mieux qui se font ailleurs, de donner envie de lire.
Je pense qu'aujourd'hui, c'est une des missions du journaliste, c'est de signaler aux lecteurs les meilleures ressources. Si je suis Le Monde, par exemple, les bonnes ressources sont celles du Monde, mais pas seulement. Ça va être aussi des ressources de Libération, du Figaro, de La Croix, et aussi des ressources du monde anglophone. Donc je pense que c'est important aujourd'hui de pas rester... Enfin, la newsletter a cet intérêt d'être ouvert sur le web et de permettre un gain de temps en sélectionnant les meilleures sources du web.
Et d'avoir un taux d'ouverture de cette newsletter quand il est envoyé à une masse globale d'utilisateurs qui soit le plus élevé possible, j'imagine.
Voilà, l'important, c'est vraiment de créer une relation. La newsletter a cette capacité à créer une relation. Si les gens sont abonnés et ne nous ouvrent pas, ça n'a aucun intérêt. Si les gens nous ouvrent, ça veut dire qu'ils trouvent un intérêt à venir tous les jours, toutes les semaines, nous lire. Et on crée ce lien qui fait parfois défaut aux médias.
Et justement, y a-t-il des innovations peut-être à attendre prochainement dans les newsletters ? Ou alors au final, c'est quelque chose d'assez figé ?
En soi, c'est assez figé. Une newsletter, c'est... Grosso modo, ça peut être assez moche, c'est plus interactif, c'est pas multimédia. Et je pense que c'est l'intérêt, comment dire, les défauts du newsletter sont ses intérêts. C'est-à-dire que c'est quelque chose de peu interactif dans un monde où tout bouge, où tout clique. C'est quelque chose d'écrit dans un monde d'images, grosso modo. C'est quelque chose de fini. Un newsletter, c'est 2 minutes, 3 minutes à lire dans un monde de flux. Et c'est quelque chose de personnel dans un monde impersonnel. Et je pense que c'est vraiment... Il n'y a pas d'innovation technologique forte, un petit peu d'interactivité, mais rien de très, très, très spectaculaire. L'innovation, c'est vraiment dans ce rapport au lecteur. Et je pense que les médias qui creusent ce canal-là ont envie de réussir à tisser un lien assez fort avec le lecteur. Et c'est l'intérêt de ce canal.
Je le disais en introduction, Jean Abbiatessi, vous avez quitté ID News. Quelle est votre actualité ?
Alors moi, je reste à côté de la Suisse et j'ai un petit projet justement de médias par newsletter.
On peut en savoir plus ou on en saura plus bientôt ?
Oh, ça arrive bientôt.
Merci beaucoup Jean Abbiatessi, à bientôt.
Merci.
9 janvier 2020, quatrième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, Paris. Peu avant 14h, un cortège de manifestants s'était lancé de la place de la République à destination de la place Saint-Augustin. La scène qui va suivre, et que Le Monde a pu authentifier, se déroule à 16h04, au croisement des rues Saint-Lazare et de Caumartin.
Bonjour Charles-Henri Groux.
Bonjour Steven.
Vous êtes chef du service vidéo au journal Le Monde. Alors peut-être que je ne devrais d'ailleurs pas dire le journal, puisque c'est un média à part entière qui fait de la vidéo, qui fait aussi du podcast maintenant. Et une des innovations éditoriales en vidéo du Monde depuis quelques mois, eh bien, ce sont des formats d'enquête d'une quinzaine de minutes. Le premier a été diffusé en octobre 2019. C'était sur un tir de lanceur de balles de défense dans une manifestation de Gilets jaunes qui avait blessé à la tête un manifestant. Expliquez-nous en quoi c'est une innovation éditoriale pour Le Monde que de faire ce nouveau format.
On est parti d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, il y a des milliers d'heures de vidéos qui sont produites par tout un chacun pendant des manifestations, sur les ronds-points au moment des Gilets jaunes, partout dans le monde, à Hong Kong par exemple, on l'a vu encore dernièrement. Et il y a un besoin d'explication, de compréhension et de contexte sur ces images-là. Et on s'est dit, nous, en tant que journal, avec nos presque 400 journalistes et notre équipe vidéo d'une quinzaine de personnes, on est capable, on a la possibilité, sur certaines vidéos, d'expliquer, de contextualiser et donc de faire de l'enquête sur ces images-là. Donc on part, et c'est là notre spécificité, on part de vidéos qui sont tournées par tout un chacun et pas d'images que nous on va filmer nous-mêmes, de user-generated content comme on dit, donc générées par les amateurs, et on les explique, c'est-à-dire qu'on passe des dizaines d'heures à les observer, à aller regarder le petit détail dans un smartphone, à aller observer une horloge dans le coin d'une rue qui peut indiquer une heure et une information, et on va par exemple, dans les deux enquêtes qu'on a réalisées, mettre en lumière des manquements de policiers qui n'ont pas respecté la réglementation et qui ont enfreint la loi.
Et vous avez également fait de la modélisation en 3D des lieux en question. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement de la matière vidéo, des images filmées, mais également de la reconstitution. Donc ce sont des métiers encore différents. Vous avez fait se compiler plein de métiers différents pour une seule et même vidéo.
Tout à fait. Donc comme on part d'images qu'on n'a pas tournées nous-mêmes, parfois il en manque. Il manque des images sur des moments décisifs. Par exemple, le moment où on va voir la balle ou la grenade lacrymogène arriver vraiment dans le visage d'un manifestant. Et donc, on part d'images qu'on a, et quand il y a des trous, quand il y a besoin de contexte ou de resituer sur le terrain comment ça s'est passé, et bien là, on fait travailler notre équipe de modélisateurs, donc de motion designers qui font de la 3D, et ils vont remettre en 3D, recréer les images qui n'existent pas. Et donc, si vous allez voir nos vidéos, il y a des images amateurs, notre explication, et puis des séquences où on se balade en 3D, par exemple, dans les rues de Paris, et on voit le jet de la grenade, la trajectoire de la grenade qui arrive dans l'œil d'un manifestant et qui permet de comprendre ce qui s'est passé.
Alors, le format, parlons du format 15 minutes actuellement sur Internet, c'est assez long finalement. Et puis, c'est pas forcément toujours adapté au visionnage sur smartphone. Est-ce que vous avez essayé de prendre ça en compte au moment de la production ?
Je crois qu'en fait, il y a du temps sur Internet et que les gens sont prêts à passer du temps pour peu que ça soit de la qualité et que ça leur apporte quelque chose. Et donc en fait, quand on est parti sur nos projets, ce projet d'enquête vidéo, on s'est dit c'est un projet sans durée fixe. Ça peut durer 5 minutes, ça peut durer 20 minutes, tout dépendra de ce qu'on arrive à expliquer et du temps qu'on a besoin dans la vidéo pour vraiment clarifier la situation. Et donc là, on est arrivé à 15 minutes, mais sans vraiment le choisir au départ, parce qu'il y a pratiquement 10 minutes où on passe à expliquer le contexte avant le problème. C'est-à-dire, il y a un policier qui a fait un truc pas bien, Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut passer 7, 8, 9, peut-être 10 minutes à expliquer tout le contexte qui a fait qu'on en est arrivé là.
Et quelles questions vous êtes-vous posées sur la diffusion de ce format vidéo? Où est-ce qu'on l'héberge et comment est-ce qu'on donne envie aux gens de venir le voir?
Alors nous, on a la chance en tant que grands médias d'avoir une très forte audience. Le Monde aujourd'hui, c'est 144 millions de visites par mois. Donc c'est une sorte de possibilité qu'on a, dès qu'on produit quelque chose, de le faire voir par énormément de perdus. Là, on a quand même été soufflé. Je dois le dire par l'impact que ça a eu, parce qu'en fait, au-delà même du nombre de vues, chaque vidéo c'est 400-500 000 vues, c'est des très bons scores, mais c'est pas monstrueux par rapport à ce qu'on fait par ailleurs sur d'autres formats. On a surtout été impressionné en fait par l'impact politique et citoyen que ça a eu, c'est-à-dire que les gens ont compris que Le Monde était en capacité d'expliquer des choses sur des vidéos que les autres n'étaient pas en capacité d'expliquer. Pourquoi? Je pense essentiellement parce qu'en fait on a le temps, là où il y a beaucoup de rédactions qui n'ont plus le temps de faire leur travail, et nous on s'est donné le temps entre 15 jours et 3 semaines sur chaque sujet pour bien faire les choses.
Quels sont les projets sur lesquels le service vidéo du Monde travaille justement en matière d'innovation actuellement?
On a envie de développer donc ces formats d'enquête, mais on n'a pas envie de se concentrer exclusivement sur les violences policières. Il s'avère que là, c'était la chose la plus importante des 6 derniers mois, et c'est là où il y avait vraiment beaucoup d'images et un travail qui nous était nécessaire, je pense. Mais on n'a pas envie de se contenter de ça, et donc notre objectif dans les mois à venir, c'est d'aller sur des thématiques vraiment mondiales, d'aller voir ce qui se passe en Afrique, des thématiques vraiment au Moyen-Orient, dans le nord de l'Irak, par exemple, il y a des choses intéressantes, et puis pourquoi pas en Asie, autour de Hong Kong, etc. Il y a plein de thématiques qui sont aujourd'hui à défricher.
Et sur la façon dont vous essayez de toucher les gens, justement, vous essayez d'internationaliser peut-être votre audience en allant chercher les audiences là où elles sont, à l'international, peut-être en Afrique, par exemple, avec des contenus qui pourraient être mis en valeur sur Le Monde Afrique, votre verticale Afrique.
Effectivement, nous avons une chaîne YouTube dédiée qui s'appelle Le Monde Afrique, et puis qui produit des contenus sur l'Afrique, sur la diaspora africaine, sur toutes les thématiques en rapport avec l'Afrique, qui pour l'instant ne fait pas d'enquête, mais avec lesquelles on pourrait travailler pour produire des formats d'enquête, tout à fait.
Et pour les jeunes journalistes qui nous écoutent et auraient envie de rejoindre l'équipe vidéo du Monde que vous dirigez, quels sont les talents que vous recherchez, les connaissances, les compétences qui vous intéressent plus particulièrement là, en 2020?
Alors évidemment, ça tombe bien parce qu'on est en train de chercher une nouvelle recrue au sein du service, donc je lance un appel. On recherche avant tout des gens qui sont très sérieux, qui aiment la vérité, donc qui vont rechercher la vraie info au-delà des fake news, mais pas forcément qui sortent d'école de journalisme. Notre objectif, c'est d'aller chercher des profils de gens qui sont passionnés par la vidéo et passionnés par la qualité de l'information. Donc ça peut être des youtubeurs, ça peut être des gens qui sortent de la fac, des gens qui sont passionnés par la vidéo dans leur chambre et qui ont envie de raconter des choses et de révéler des choses et d'expliquer l'information.
Est-ce que Le Monde arrive à toucher de nouveaux publics justement par ces formats vidéo?
Alors on a une audience sur la chaîne YouTube du Monde qui est un peu plus jeune que l'audience du Monde tout court, puisque 60% de notre audience a entre 18 et 35 ans. Ce qui est très bien, puisque c'est aussi l'objectif de notre chaîne YouTube, c'est de réussir à rajeunir notre lectorat et à montrer auprès d'un public qui ne connaît peut-être pas bien Le Monde qu'on existe et que s'ils recherchent de l'info de qualité, ben, ils peuvent, parmi d'autres médias, aller nous voir.
Et vous êtes soutenu en cela, dans votre démarche, par le groupe Le Monde dans son ensemble ?
On est soutenu à fond par le groupe Le Monde, puisque en termes de business, YouTube n'est pas un business en soi. C'est une plateforme qui nous permet de développer nos contenus, mais ce n'est pas la plateforme qui nous rapporte de l'argent et qui nous permet de tenir. L'objectif global à l'échelle du groupe, c'est d'avoir de plus en plus d'abonnés, mais pas d'abonnés YouTube, c'est d'avoir de plus en plus d'abonnés au Monde, donc de gens qui payent 9 euros, 19 euros par mois en fonction des formules, pour s'informer. Et donc nous, on fait partie de cette stratégie globale-là. On n'est pas un média en tant que tel, on est un service au sein d'un média.
Merci beaucoup Charles Henri Gros, à bientôt.
Merci à toi.
C'est ainsi que s'achève notre émission enregistrée aux rencontres de la vidéo mobile et de l'innovation éditoriale à Paris le 6 février. Simon Decreuse était comme chaque semaine à la réalisation. Je m'appelle Steven Jambot et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure à la radio. D'ailleurs, à propos de radio, on parlera de la journée mondiale de la radio. D'ici là, vous pouvez retrouver en podcast l'atelier des médias.